Maintenant, je vais vous présenter notre conférencier de ce soir. C'est Franck-Dominique Vivien, qui est né en 1964. Il est économiste. Il a eu un doctorat S sciences économiques obtenu en 1991 à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Reims et chargé de mission au programme Environnement, Vie et Société du CNRS 1998-2002. Ses spécialités, il est spécialiste d'économie de l'environnement, il travaille sur la problématique du développement durable et sur l'économie de la diversité biologique. Pour sa bibliographie, Franck-Dominique Vivien a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, Biodiversité et appropriation, les droits de propriété en question, quel prix accorder à la biodiversité et les enjeux de la biodiversité. Nous l'accueillons donc pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci.
On peut peut-être s'étonner de la présence d'un économiste dans un cycle de conférences qui est consacré à la diversité de la vie. En fait, il n'y a rien de surprenant à cela. Depuis le milieu des années 80, la diversité biologique a été reconnue comme un problème d'environnement global. On parle d'érosion de la diversité biologique, au même titre par exemple que le changement climatique. Et à partir de ce moment-là, la diversité biologique est entrée d'une certaine façon dans la sphère de la rareté. Et il a été reconnu qu'il importe désormais de définir certaines règles de gestion de la diversité biologique. Et c'est au nom de cette logique finalement que les juristes, les économistes, mais aussi on pourrait citer probablement d'autres chercheurs en sciences sociales, se sont saisis cette problématique de la diversité biologique, alors que jusqu'alors, c'était une question qui était essentiellement travaillée par les naturalistes. Donc, je me propose de vous montrer comment la diversité biologique est devenue un objet autour duquel sont débattues des questions juridiques et économiques, en quoi, en quelque sorte, la diversité biologique est devenue un objet légal et de négociation commerciale. Alors, tout d'abord, penchons-nous sur la diversité biologique et sur le problème d'environnement qui l'occupe. La diminution de la diversité biologique appartient à la classe des problèmes qu'on peut qualifier de problèmes en univers controversé, qu'on oppose généralement à ce qu'on appelle des univers stabilisés. Alors, pourquoi univers controversé ? Parce que d'un côté, ces problèmes sont suffisamment connus pour qu'on leur reconnaisse une importance réelle et qu'on se décide à agir pour y répondre. Mais d'un autre côté, il y a un certain nombre d'aspects de ces problématiques, un certain nombre de dimensions qui restent justement problématiques, éminemment controversées. Et donc, il continue à y avoir des discussions sur, par exemple, les causes, les conséquences réelles de cette problématique, quelles sont les responsabilités invoquées, etc., etc. Alors, problème en univers controversé, donc, d'un côté, on reconnaît que l'extinction des espèces, qui est un phénomène naturel, connu de longue date, donc on reconnaît que ce phénomène a pris une ampleur tout à fait particulière, puisque maintenant on reconnaît que c'est un problème global, donc ce sont pratiquement tous les types de milieux naturels qui sont concernés aujourd'hui, mais aussi une rapidité, là aussi tout à fait exceptionnelle, puisqu'on parle de bouleversements qui peuvent intervenir en quelques dizaines, voire peut-être un siècle ou deux, quelques dizaines d'années ou un siècle ou deux, ce qui est relativement court à l'échelle de l'évolution naturelle. Donc un phénomène naturel, mais qui, depuis quelques décennies, nous disent les naturalistes, a pris une ampleur, une acuité tout à fait particulière. À tel point d'ailleurs que les naturalistes, en tout cas certains d'entre eux, n'hésitent pas à parler de sixième crise d'extinction de masse. La cinquième étant assez connue, c'est celle du Crétacé, où les dinosaures ont disparu. Donc on est en train de vivre la sixième crise d'extinction de masse que la vie aurait connue en fait, depuis son apparition sur Terre. Notons tout de suite que cette diminution de la diversité biologique ou de la biodiversité, comme on dit parfois, ne concerne pas uniquement les espèces sauvages, mais aussi toutes les espèces, animales et végétales, qui ont été domestiquées par les sociétés humaines. On peut prendre un exemple. S'il y a environ une centaine d'espèces de pommes qui sont répertoriées en France, toutes ne sont pas encore répertoriées, mais enfin on en connaît au moins une centaine d'espèces, 70% de la consommation de pommes en France, c'est une seule espèce, la golden. On pourrait multiplier les exemples comme ça. La production de pommes de terre aux États-Unis, 80% sont assurées par deux espèces, etc., etc. Donc, une diminution aussi qui intervient, qui touche sur les espèces domestiquées, que ce soit les animaux ou les plantes. Donc, il importe de souligner que toute la diversité biologique que l'on connaît aujourd'hui sur Terre provient d'une part, bien sûr, de l'évolution naturelle des milieux de vie, mais aussi, bien sûr, de l'activité des sociétés humaines qui, par leur lente activité de sélection des animaux et des plantes, eh bien, ont produit tout un tas d'espèces que l'on connaît aujourd'hui. Alors, le nombre de ces espèces domestiquées, cultivées, bien sûr, est relativement faible par rapport à l'ensemble des espèces que l'on peut connaître. On estime, par exemple, qu'il y a environ 4% des 250 000 plantes qui sont utilisées par les sociétés humaines. On estime aussi qu'il y a environ 6 à 7 000 espèces animales qui sont élevées, en quelque sorte, alors qu'il y a aussi pratiquement 300 000 espèces d'animaux, en tout cas supérieures. Donc c'est une part relativement faible par rapport à l'ensemble des espèces, mais il est bien évident que ce petit nombre d'espèces a une importance toute particulière pour les sociétés, absolument primordiale même, puisque eh bien, on y trouve la base de la nourriture, hein, bien sûr, mais aussi la satisfaction d'autres types de besoins. On peut évoquer la production de fibres, par exemple, on peut évoquer la pharmacie, on peut évoquer les cosmétiques, et puis on peut encore trouver de multiples exemples d'utilisation de la diversité biologique animale et végétale par les sociétés humaines. Et puis, à côté de ça, on pourrait aussi évoquer ce qu'on appelle parfois les services écologiques, à savoir ce que l'ensemble des écosystèmes assurent, en quelque sorte, pour les sociétés humaines, c'est-à-dire l'épuration, la régulation climatique, etc., etc. Tout ce que fait la nature, en quelque sorte, et qui nous permet de vivre sur Terre. Alors, quelles sont les causes qui sont invoquées pour expliquer la diminution de cette diversité biologique ? En fait, on est face à la conjonction d'un ensemble de phénomènes. La destruction des habitats, notamment par le changement d'occupation des sols, la déforestation, le développement des infrastructures et des équipements, les pollutions de toutes sortes, l'introduction d'espèces exotiques, pour un exemple bien connu, les tortues de Floride, par exemple, que vous achetez, et puis quand elles deviennent un peu trop encombrantes, eh bien, vous les rejetez, et donc elles vont venir faire la concurrence avec les espèces de tortues qu'on trouverait en France, par exemple. Et puis, on peut enfin évoquer la standardisation des modes de production et l'uniformisation des modes de vie et de consommation. Voilà un peu les éléments sur lesquels les naturalistes s'accordent. D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, la controverse demeure, et au sein même de la communauté des chercheurs des sciences de la vie. La première des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que désigne l'expression « diversité biologique » ? Alors, on utilise généralement une définition assez simple. La diversité biologique, c'est la variété du monde vivant qui nous entoure. Le problème devient un petit peu plus ardu quand on essaye de saisir précisément qu'est-ce que recouvre ce concept-là. Parce qu'en fait, la diversité biologique, c'est un concept abstrait qui a été inventé par les naturalistes pour essayer de désigner certains niveaux d'organisation du vivant. Alors, on distingue généralement, d'une part, la diversité génétique, donc le génome et l'ensemble de la diversité qu'il offre. Deuxième niveau d'organisation, la diversité spécifique, la diversité des espèces. Et vous avez déjà noté que j'ai beaucoup parlé déjà d'espèces, donc le nombre d'espèces qui va exister sur Terre. Et puis, troisième niveau d'organisation, ce qu'on va appeler la diversité écosystémique, les écosystèmes étant ces complexes écologiques où on a un ensemble d'espèces qui vont interagir avec un milieu de vie et qui vont donner des organisations tout à fait particulières. Donc on a là trois niveaux d'organisation du vivant, mais quand on étudie ça d'un peu près, on s'aperçoit finalement que ces entités-là ne sont pas définies de manière très très précise. Il y a des controverses absolument terribles chez les naturalistes pour définir qu'est-ce que c'est qu'une espèce, par exemple. Idem, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème. Donc les contours ne sont pas très précis souvent, et puis, grande difficulté supplémentaire, quelles sont les relations qui existent finalement entre ces différents niveaux d'organisation ? Est-ce qu'il y a un rapport, finalement, entre la diversité génétique d'un côté, la diversité spécifique de l'autre ? Est-ce qu'il y a un rapport entre la diversité spécifique et puis la diversité écosystémique ? Débat sur toutes ces questions-là. On rencontre encore d'autres difficultés quand on s'attache à essayer de mesurer cette diversité biologique. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de mesure universelle, finalement, de cette diversité. Il y a différentes méthodes qui vont être utilisées de manière diverse selon les objectifs poursuivis. On ne sait pas en fait aujourd'hui combien il y a d'espèces sur Terre. On estime, vous avez là un petit graphique, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 1,5 million, 1,7 million espèces qui sont répertoriées à ce jour. Les estimations sur les espèces qui resteraient à découvrir sont très très variables, puisqu'elles vont de l'ordre de 2 millions à 100 millions d'espèces. Les chiffres les plus souvent cités tournent environ autour de 10 millions d'espèces. On ignore aussi le rythme exact finalement d'extinction des espèces. On procède par des modèles, à savoir qu'on fait des estimations de densité d'espèces dans certains types d'écosystèmes, les forêts notamment. Ensuite, on va faire des estimations sur le rythme de disparition de ces écosystèmes. On va utiliser les photos satellites, et puis on va essayer de faire une estimation de la déforestation aujourd'hui, par exemple. Et puis, de cette manière, on va essayer de faire une estimation finalement du nombre d'espèces qui disparaîtraient aujourd'hui. En sachant bien, encore une fois, qu'il y a un certain nombre d'espèces qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui, vraisemblablement, disparaissent. Donc, les estimations quant à la disparition d'espèces sont aussi très très variables, puisqu'on a des chiffres qui vont de l'ordre de 10 000 à 100 000 par an, grande indétermination. Et les choses se compliquent encore, parce que, bien, on ne cesse de découvrir des espèces tous les ans, bien sûr, y compris dans les groupes taxonomiques les plus connus, même par exemple chez les oiseaux, qui sont des groupes qui sont relativement bien étudiés quand même. On découvre encore aujourd'hui en moyenne 3 espèces d'oiseaux nouvelles tous les ans. Donc, voyons, on continue à découvrir de nouvelles espèces. Et puis, ben, vous n'êtes pas sans ignorer que les activités humaines continuent à créer de nouvelles espèces. Il y a encore cette activité de sélection animale et végétale. Et puis, depuis quelques années, on sait que le génie génétique produit aussi de nouvelles espèces. Cet ensemble d'incertitudes, eh bien, n'ont pas empêché que la problématique de la diversité biologique a quitté la sphère de débat des naturalistes pour verser finalement dans la sphère publique, dans la sphère de la décision politique. Et il faut dire, je viens d'évoquer l'essor du génie génétique, il faut dire que depuis le milieu des années 70, eh bien, les enjeux économiques et politiques qui sont attachés justement aux vivants, eh bien, ont pris une importance toute particulière. Le génie génétique, cet ensemble de techniques qui permettent de réaliser par un être vivant tout ou partie du programme génétique d'un autre être vivant, c'est une définition d'Axel Kahn, eh bien, a effectivement ouvert des possibilités absolument extraordinaires. Et les progrès de la biologie moléculaire, les progrès de la biochimie, de l'informatique, eh bien, font maintenant que l'ensemble des gènes offre des possibilités de création de nouvelles espèces. Vous savez qu'on peut sélectionner un gène ou un ensemble de gènes dont on pense qu'ils sont responsables de caractéristiques morphologiques, la couleur, la taille, la texture, ou responsables de caractéristiques comportementales, la résistance au froid, par exemple, des stimulants de croissance, etc., etc. Donc on va sélectionner ces gènes, bien sûr, qu'on va essayer de transférer sur d'autres types d'organismes pour obtenir ces caractéristiques qu'on recherche. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il ne se passe guère de semaines, finalement, sans qu'on nous annonce la création d'une nouvelle espèce, d'un nouvel organisme, animal ou plante, qui a vu le jour grâce à une manipulation génétique. Et donc, depuis les années 70, les gènes, bien sûr, ont acquis un nouveau statut. On parle d'ailleurs de ressources génétiques, qui sont des sources virtuelles de produits industriels nouveaux, et sur lesquelles les spéculations économiques vont bon train. Les chiffres des experts sur les chiffres d'affaires que vont produire les biotechnologies dans les années qui vont venir se chiffrent en centaines de millions de dollars. Donc, ces innovations techniques, ce développement du génie génétique, eh bien, a aiguisé, bien sûr, les appétits. En cela, quelques exemples médiatisés, effectivement, font rêver. Un des éléments les plus connus, c'est par exemple la pervenche de Madagascar, une petite plante à partir de laquelle on a isolé 2 alcaloïdes qui permettent de soigner des formes particulières de cancer. Et on estime aujourd'hui que ce sont environ 200 millions de dollars qui sont apportés simplement par la vente de ces médicaments. Donc, de nouvelles perspectives de profit qui font que régulièrement, les scientifiques, les gazettes aussi, les journaux, parlent d'une sorte de ruée vers l'or vert, On parle d'un or vert, bien sûr, comme on a parlé d'un or noir. Et petit à petit, la problématique de la diversité biologique, eh bien, s'est construite au niveau international autour des questions de manque à gagner, de vol de richesses, de pillage. Et il est vrai qu'un certain nombre d'affaires récentes, concernant par exemple le riz basmati, on a aussi parlé du margousier, qui est une espèce assez proche de l'acajou, donc des dépôts de brevets qui ont été faits sur ces espèces-là par certaines multinationales, trouvent des échos avec des histoires anciennes. Une des plus connues est celle de l'EVA brésilien, dont on nous dit, même si là aussi il y a discussion, que des graines auraient été volées aux Brésiliens pour pouvoir effectivement aller les planter en Asie. Et c'est à partir de là que le caoutchouc et toute l'industrie du caoutchouc s'est écroulée en fait au Brésil. Donc, des histoires, des affaires, et on sait que l'exploration botanique a été un des grands enjeux de l'entreprise coloniale, et on sait aujourd'hui que c'est encore un des éléments de la lutte entre les grandes puissances économiques mondiales. Donc, on a une sorte de construction sociale de la problématique, vous voyez, qui passe d'un élément de recherche en termes de problématiques de naturaliste à de plus en plus des enjeux économiques et industriels. Donc, ces dynamiques en cours, avec tous ces enjeux que j'ai présentés brièvement, des enjeux environnementaux, des enjeux industriels, des enjeux politiques, font qu'il a été reconnu de plus en plus urgent la nécessité de mettre en place des éléments d'une régulation internationale. Et on a vu des négociations qui ont démarré environ dans les années 82-83 et qui ont mis une bonne dizaine d'années à aboutir. Et ces négociations, effectivement, ont permis, le 5 juin 1992, c'était lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l'adoption d'un texte international, ce qu'on appelle la Convention sur la diversité biologique, qui est un des trois grands textes qui a été adopté lors du sommet de la Terre de Rio. Les deux autres sont connus, enfin en tout cas un est très connu, c'est la Convention sur le changement climatique, qui est très très connu, et puis il y a aussi une convention qui a été signée sur la désertification. Pardon. Donc, la convention sur la diversité biologique, c'est ce qu'on appelle une convention cadre, autrement dit, c'est une sorte de grand cadre juridique international qui stipule des modalités de coopération, des modalités de décision auxquelles doivent répondre finalement les États qui sont signataires de ce grand texte. Il y a tout un processus qui accompagne ces négociations. Elles sont arrêtées à Rio de Janeiro avec l'adoption de cette convention sur la diversité biologique. Il y a ce qu'on appelle la conférence des parties signataires, qui sont donc des réunions régulières qui se tiennent pour accompagner ce processus de négociation. La 6e conférence des parties a eu lieu à La Haye en avril 2002. La 7e conférence aura lieu en Malaisie, à Kuala Lumpur, en 2004. Donc à chaque fois, des réunions qui regroupe toutes les parties signataires, tous les États signataires de cette convention, qui continuent à discuter pour préciser tel article qui a été signé pour construire à côté de nouveaux textes qui vont venir compléter le dispositif juridique de cette convention sur la diversité biologique. Donc, des négociations passées et présentes, et futures bien sûr, qui continuent à voir la confrontation de divers logiques de différents acteurs. J'ai déjà parlé des États, bien sûr. Ce sont des négociations qui sont aussi menées sous l'égide des grandes organisations internationales. On peut parler du programme des Nations Unies pour l'environnement, on peut parler du programme des Nations Unies pour le développement, on peut parler de la FAO, l'institution internationale qui s'occupe de l'alimentation dans le monde. On peut parler aussi d'ONG, qui sont soit des associations de défense de l'environnement, d'autres associations qui vont lutter contre la faim dans le monde, etc. Donc on voit de multiples acteurs, de par leur centre d'intérêt, de par leurs caractéristiques institutionnelles, qui vont essayer de négocier pour arriver à l'établissement d'un texte et d'un ensemble de corpus juridiques pour la régulation internationale de la diminution de la diversité biologique. Alors, si on veut sortir deux grandes oppositions, deux grandes tensions qui se trouvent à l'intérieur de ces négociations, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les fait avancer, on peut souligner d'abord le fait qu'il y a une opposition assez forte entre, d'une part, ce qu'on pourrait appeler une logique de développement, et l'autre, une logique de protection de l'environnement. Il y a une sorte d'opposition, en tout cas de tension, entre des acteurs d'un côté qui sont désireux d'essayer de trouver dans la nature la possibilité d'exploiter de nouvelles ressources, hein, qui vont permettre de fournir de nouvelles richesses pour des pays en voie de développement, comme on dit pudiquement, pour que ceux-ci puissent voir leur bien-être s'améliorer. D'un autre côté, on va trouver des acteurs qui sont plutôt enclins à vouloir faire de la protection de l'environnement une priorité. Et on sait bien qu'il va falloir essayer de gérer cette espèce de tension, de contradiction, diront certains. Et il y a une notion qu'on appelle le développement durable, hein, qui est censé justement essayer de tisser cette tension, finalement, et essayer de la gérer, et bien qui est une notion qui a été inventée dans les années 80. Et il est assez intéressant de voir que c'est justement un des textes qui va servir de brouillon, en quelque sorte, à la Convention sur la diversité biologique, un texte qui s'appelait « La stratégie mondiale pour la conservation de la nature ». C'est dans ce texte qu'on trouve une des premières occurrences de la notion de développement durable. Donc on voit bien que, dès le départ, les acteurs et les textes qui ont servi en quelque sorte à l'élaboration de la Convention sur la diversité biologique essayent d'innover dans ce domaine éminemment difficile que serait le développement durable. Une seconde opposition qu'on peut repérer est plus traditionnelle, puisqu'il s'agit finalement d'un clivage assez classique dans les relations Nord-Sud. D'un côté, on trouve des pays du Sud, comme on dit aussi aujourd'hui, qui sont détenteurs sur leur territoire d'un certain nombre de hauts lieux de la diversité biologique mondiale, hein, ce que les anglo-saxons appellent des hotspots, puisque la diversité biologique n'est pas répartie de manière égale sur l'ensemble des territoires. Hein, pour donner un chiffre qu'on retrouve souvent, les 7% de la surface qu'occupent les forêts tropicales, représenterait plus de 50%, dit-on, de l'ensemble des espèces animales et végétales qui existent de par le monde. Donc, il se trouve que certains pays, le Brésil, la Bolivie, un certain nombre de pays, je pourrais en citer d'autres, qui se trouvent en fait détenteurs potentiellement d'une source de richesse très importante. Ils sont richement dotés en ressources biologiques. D'un autre côté, on va trouver les pays du Nord et les entreprises pharmaceutiques, agroalimentaires, etc., qu'ils abritent, qui, eux, vont être détenteurs de moyens financiers, de moyens techniques, j'ai parlé du génie génétique, qui vont permettre d'exploiter justement cette matière première qui est devenue la diversité biologique. Le texte de la Convention sur la diversité biologique va refléter cette tension. Ce n'est pas très surprenant. D'une part, on peut repérer deux objectifs qui sont assignés à la Convention sur la diversité biologique. Le premier objectif, je cite, c'est de définir et appliquer des mesures incitatives pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Le deuxième objectif, c'est mettre en place des mécanismes et des instruments permettant l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages qui en sont retirés. Deux objectifs. Et la Convention sur la diversité biologique, pour essayer de remplir ces deux objectifs, va se centrer sur les droits de propriété sur les ressources biologiques. Autrement dit, et ça c'est une particularité de la Convention sur la diversité biologique, on trouve peu cette disposition-là dans les autres grands textes de droits internationaux, on va essayer de faire confiance aux droits de propriété, finalement, pour que ceux-ci deviennent des éléments qui vont valoriser d'une part et protéger, d'autre part, la diversité biologique. Autrement dit, il y a une sorte d'hypothèse qui structure ce texte, qui est de dire que c'est à partir du moment où la diversité biologique va avoir une valeur économique, d'une part, et que cette valeur économique va pouvoir être appropriée par des acteurs, d'autre part, que les acteurs concernés, justement, vont se sensibiliser à ces ressources biologiques et vont commencer à les gérer de manière convenable. La Convention, donc, je le répète, fait un sort tout à fait particulier aux droits de propriété sur les ressources biologiques, mais petit à petit, il y a eu un glissement vers les droits de propriété qui portent aussi sur les techniques, les savoirs et les savoir-faire qui permettent bien sûr d'exploiter les ressources biologiques. En cela, le texte témoigne des différentes forces économiques et politiques que j'ai présentées tout à l'heure et aussi d'une volonté d'essayer de concilier finalement ces différentes tensions. Alors, quels sont ces grands types de droits de propriété sur les ressources et sur les techniques, les savoirs et les savoir-faire que l'on trouve dans le texte de la Convention sur la diversité biologique. On trouve trois grands types. Le premier, c'est la souveraineté nationale sur les ressources biologiques. Je ne vais pas revenir sur la genèse de la Convention sur la diversité biologique, mais il faut savoir que pendant une bonne part des négociations, il y avait un statut qui était celui du patrimoine commun de l'humanité, qui a été mis en avant par un certain nombre d'acteurs, avec l'idée que bien, la diversité biologique, finalement, devait être un patrimoine commun de l'humanité, que ça devait appartenir finalement à tout le monde, et que les ressources devaient être en libre accès, finalement. Personne n'avait le droit de se les approprier en tant que telles. Donc, on a eu pendant tout un temps cette hypothèse-là, cette hypothèse de travail qui a été mise en avant. En fait, les pays du tiers-monde, qui pourtant avaient été les instigateurs de cette notion dans les années 70, sont montrés fort inquiets en fait, de cette disposition-là. Parce qu'effectivement, la notion de patrimoine commun de l'humanité, finalement, qui plus est pour des pays qui ont parfois des territoires très très grands, parfois difficiles à contrôler, eh bien, la notion de patrimoine commun de l'humanité inquiétait puisque ça laissait les ressources en libre accès. Autrement dit, et ça s'est vu, peut très bien venir effectivement s'introduire dans une forêt équatoriale, aller ramasser quelques échantillons biologiques et puis repartir aussi discrètement qu'on est venu finalement et puis à partir de là dans un laboratoire en Occident trouver peut-être, qui sait, des molécules qu'on va pouvoir breveter, etc., etc. Donc cette notion de patrimoine commun de l'humanité est tombée en désuétude. On la retrouve de manière très légère, en quelque sorte, dans le préambule, simplement, de la Convention sur la diversité biologique, où il est dit que cette diversité est devenue une préoccupation commune de l'humanité. Mais préoccupation commune, ça n'a aucune portée juridique particulière. Et par contre, ce qui a été reconnu de manière forte, c'est l'article 3 de la Convention qui le stipule, eh bien, on reconnaît désormais la souveraineté des États sur la diversité biologique qui est présente sur leur propre territoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on veut accéder aux ressources biologiques qui sont présentes sur le territoire d'un État, eh bien, il faut demander une autorisation. C'est ce que la Convention appelle le consentement préalable donné en connaissance de cause. Donc, un consentement qui doit être fourni par l'État qui possède la ressource biologique et donc qui doit pouvoir demander un certain nombre de renseignements, quel type d'organisme collectés sont envisagés, à quel endroit, quelles personnes vont collecter ces ressources, dans quel but, quelles sont les contreparties qui peuvent être fournies en termes d'argent, en termes de renforcement de l'expertise technique, par exemple, enfin, quelles sont toutes les contreparties, finalement, à l'accès sur leur territoire. En contrepartie, bien sûr, les États, maintenant, eh bien, doivent, tant que faire se peut, essayer de faciliter l'accès de leur territoire à des entreprises ou à d'autres types d'organismes, donc des institutions de recherche publique, par exemple, pour qu'il y ait des accords mutuels, finalement, qui soient noués entre les États d'un côté et puis d'autres types de partenaires de l'autre. La Convention reconnaît donc la souveraineté nationale sur les ressources biologiques. À côté de ça, il est demandé aux États aussi de reconnaître les droits de propriété commerciaux et notamment le droit des brevets. Ça, c'est l'article 16 de la Convention qui le stipule, par exemple. Alors, il existe de nombreuses formes de droits de propriété intellectuelle, comme on les appelle. Le brevet est celui, probablement, qui occupe une place particulière dans cette question. Le brevet, je rappelle que c'est un monopole temporaire. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, c'est un monopole pour une vingtaine d'années, donc qui est attribué à un inventeur si il peut prouver que son invention a trois caractéristiques, la nouveauté, une application industrielle, et qu'on peut reproduire, bien sûr, cette nouveauté. Le brevet, généralement, est considéré comme une incitation à l'innovation, puisque grâce à ce monopole temporaire, celui qui a innové eh bien, va pouvoir bénéficier, bien sûr, de son invention pendant la période de temps que couvre le brevet. Et donc, ainsi, il va pouvoir se rembourser, en quelque sorte, des dépenses, des coûts, souvent très importants, qui sont associés aux recherches et au développement pour mettre au point justement de nouvelles innovations. Alors, très longtemps, le problème de l'application du droit des brevets aux vivants ne s'est pas posé, tout simplement parce que la vie relevait du domaine des découvertes, et les découvertes ne sont pas brevetables, les découvertes ne sont pas des inventions. Si vous découvrez une formule mathématique, par exemple, eh bien, vous n'avez pas de brevet à déposer dessus, c'est une découverte. Or, le génie génétique, bien sûr, est venu bouleverser cet ordre. C'est-à-dire que désormais, le vivant peut faire l'objet d'inventions et non pas simplement de découvertes. La rupture de ce statut est intervenue à partir des années 70. Il y a un cas assez célèbre qu'on appelle l'affaire Chakrabarty. C'est le nom du microbiologiste qui est le premier à déposer une demande de brevet aux États-Unis. Ça fait en 1972. Ce microbiologiste avait mis au point une bactérie qui avait la capacité de dégrader le pétrole. Et donc, il avait demandé un brevet sur cette bactérie. L'office américain avait refusé dans un premier temps. L'affaire a été portée devant la Cour suprême des États-Unis. Et le 16 juin 1980, eh bien, la Cour suprême, par un vote assez court, eh bien, reconnaît quand même la possibilité de breveter cet organisme modifié génétiquement, parce qu'il est reconnu en fait que désormais, cette bactérie eh bien, est comme une sorte d'artefact, comme une sorte de manufacture, disent les juristes dans leur texte. Donc, puisque c'est une manufacture, eh bien, ça sort du vivant, en quelque sorte, et ça peut devenir un brevet. À partir de là, la voie de la brevetabilité du vivant n'a cessé finalement de se développer, de s'élargir aux États-Unis comme en Europe. Alors, il est évident que le brevet n'est pas le seul moyen de protéger une invention. Les spécialistes, les économistes qui étudient les innovations reconnaissent même que très souvent, il y a bien meilleurs moyens en fait, de protéger les inventions. Le marketing en est un, l'innovation constante est un autre, le secret professionnel en est un troisième. Mais dans les domaines qui nous occupent, le domaine de la pharmacie, de l'agroalimentaire, où sont de grandes industries qui existent, de grands groupes qui sont constitués, eh bien, le brevet est au contraire reconnu comme un moyen efficace de protection de l'innovation. Et ce sont des domaines d'ailleurs où la concurrence se fait beaucoup plus par le dépôt de brevets que par souvent des concurrences sur les prix. Le dépôt de brevets ayant plus l'intérêt, mais je ne développerai pas cela, de faire des signaux intéressants pour la bourse. Il y a eu tout un tas de start-up notamment qui sont construites avec des portefeuilles de brevets qui montrent le dynamisme industriel de certaines entreprises. Donc, la Convention sur la diversité biologique reconnaît ses droits de propriété commerciaux et ses brevets. Alors, il y a un débat à l'intérieur des négociateurs de la Convention, certains étant favorables à une lecture stricte du droit des brevets, d'autres essayant de faire évoluer ce droit des brevets, notamment pour pouvoir faciliter des licences qui seraient fournies aux pays du Sud. On notera, c'est important, que les États-Unis ont refusé de signer le protocole, la Convention sur la diversité biologique, excusez-moi, les États-Unis ont refusé de signer justement au motif qu'il y a un des articles de la Convention qui ne protégerait pas suffisamment les droits de propriété intellectuelle. Donc on a un débat à l'intérieur de la Convention, mais reconnaissance quand même de ce type de droit de propriété intellectuelle. Le troisième grand type de droit, c'est l'élément le plus novateur finalement de la Convention sur la diversité biologique, puisqu'il est proposé, ni plus ni moins, de créer de nouvelles formes de droits de propriété intellectuelle au profit, je cite, des communautés autochtones et locales qui sont détentrices de connaissances, de savoirs, de savoir-faire, de pratiques qui concernent la diversité biologique. Alors, on peut renvoyer ici, Philippe Descola, qui était là hier à ma place, évoquait toutes ces connaissances des peuples, des forêts équatoriales, par exemple, toutes ces connaissances, ces savoirs, ces savoir-faire qu'ont acquis ces sociétés au contact direct, constant, régulier avec la nature. Et donc, la Convention évoque l'idée d'étendre finalement des droits de propriété intellectuelle à l'ensemble de ces savoirs et savoir-faire. Ce qu'on appelle les savoirs écologiques traditionnels, parfois, hein, les tech en anglais. Et on a vu depuis les années 80, ça s'est renforcé avec la tenue du sommet de la Terre de Rio, on a vu des anthropologues, des spécialistes d'ethnosciences, finalement, essayer de se pencher sur cette question de comment construire des droits de propriété intellectuelle pour des types de savoirs qui ne correspondent pas, finalement, aux savoirs qui sont généralement brevetés ou généralement retenus avec un droit de propriété intellectuelle. Pourquoi ? Parce que les connaissances écologiques traditionnelles, souvent, ne sont pas inventées à un moment historiquement déterminé, On ne sait pas à quel moment on a découvert le plant de tomate, par exemple. Sont souvent des connaissances qui sont des connaissances publiques. Une société, une tribu, un peuple, une région va connaître l'utilisation de telle plante pour tel besoin, par exemple. Ce sont des groupes d'intérêt aussi, parfois, qui sont détenteurs de ces connaissances. Ça peut être des peuples, je l'ai dit, des villages, des professions. Et tout ça, ce sont des entités qui ne sont pas reconnues directement par les instances juridiques internationales. Donc, on est ici face à des éléments qui ne sont pas encore reconnus, mais il y a une volonté d'essayer de construire un nouveau type de droit de propriété intellectuelle pour reconnaître cet ensemble de savoirs et de savoir-faire. Alors, à partir de ces différents types de droits de propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on a vu se développer avec la Convention sur la diversité biologique ? Alors que la diversité biologique, au départ, avait été conçue comme une notion intégratrice, je l'ai dit, c'est une notion qui essaye de relever de l'ensemble de la diversité biologique, de l'ensemble des niveaux d'organisation de la diversité biologique, comme une notion englobante, en quelque sorte, comme aussi la possibilité peut-être d'essayer de couvrir l'ensemble des dispositions juridiques, l'ensemble des conventions, des textes de droit qui protègent telle espèce, tel écosystème, tel commerce, etc. Donc une notion qui pouvait peut-être servir de chapeau, en quelque sorte, à un ensemble de réalités, mais aussi à un ensemble de textes de droit international. Eh bien, finalement, on s'aperçoit que la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio, se concentre essentiellement sur les ressources génétiques. Autrement dit, elle va choisir, à l'intérieur de l'ensemble des possibles, un des éléments particuliers. Et finalement, la doctrine qui émane du texte de la Convention, mais aussi des négociations qui continuent à se dérouler, eh bien, marque une inclinaison particulière vers la nécessité de développer une nouvelle activité, ce qu'on appelle la bioprospection, la prospection biologique, si vous préférez, et développer aussi un nouveau type de commerce, le commerce de gènes, tout simplement, un commerce international, au travers de la signature d'un certain nombre de contrats entre, d'un côté, des États, et de l'autre côté, essentiellement, les entreprises, parfois, des institutions publiques de recherche. Et on a un exemple assez célèbre, très médiatisé, qui s'est déroulé en 1991, un an avant la signature de la Convention, mais qui a eu un impact très fort sur le déroulement des négociations. On a un exemple assez célèbre, disais-je, de contrat entre une entreprise américaine pharmaceutique, Merck, et puis une institution parapublique du Costa Rica, l'Institut national de la biodiversité, où il y a eu un accord qui a été signé, l'entreprise pouvant prospecter pendant quelques années. En contrepartie, elle donnait un droit d'entrée sur les terrains où elle prospectait et des possibilités aussi de royalties qui étaient fournies si, à partir des collectes, l'entreprise mettait au point des produits qui allaient arriver sur le marché un jour ou l'autre. En fait, si on en croit les juristes, la Convention sur la diversité biologique donne à cette diversité biologique un statut proche, finalement, de celui du pétrole. C'est pratiquement exactement le même type de convention qu'on trouve sur les contrats d'exploration et de prospection du pétrole. On voit donc qu'il y a une sorte de glissement, finalement, de cette politique internationale vers une conception de plus en plus bilatérale, finalement, des solutions à apporter. Certains juristes disent même que peut-être la convention n'était absolument pas nécessaire, puisque finalement, si c'est un ensemble de contrats qui vont être signés de manière bilatérale, entre un État d'un côté et puis un partenaire privé ou public de l'autre, peut-être que la convention en tant que telle ne servait pas vraiment à quelque chose. Alors, aujourd'hui, au sein des négociations qui continuent à se dérouler autour de la Convention, il y a bien sûr la volonté d'essayer de recréer, de redonner un peu de force à une régulation multilatérale, essayer de définir notamment un certain nombre de règles qui seraient valables pour l'ensemble des acteurs signataires de ces contrats. On a vu récemment un groupe de pays détenteurs de diversité biologique, ce qu'on appelle parfois le groupe de Cancun, eh bien, se constituer pour essayer de mettre au point un cadre de régulation multilatérale. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les différentes lignes directrices, les recommandations, si vous préférez, qui sont mises en œuvre, eh bien, n'ont aucun statut obligatoire. Autrement dit, effectivement, un État, s'il veut, il peut prendre conseil avec d'autres États pour savoir quels sont les types de contrats qui sont signés, mais rien n'y oblige. Alors, ce type de politique, finalement, amène à s'interroger sur l'efficacité et puis l'équité, finalement, des solutions mises en œuvre. Alors, on doit reconnaître que On n'a pas aujourd'hui d'analyse exhaustive de l'ensemble des contrats qui sont signés. Les contrats, souvent, sont des choses secrètes, hein, qui lient deux partenaires. Donc, on n'a pas de... on a souvent un problème d'information. Je ne connais pas d'analyse qui a été faite sur l'ensemble de ces contrats. On peut quand même s'appuyer sur un certain nombre de travaux qui fournissent quelques éléments de, d'appréciation provisoire, dit-on. Alors, si on s'interroge d'abord sur l'efficacité environnementale de cette politique, en fait, on estime qu'en général, c'est un échantillon biologique collecté sur 10 000, voire sur 100 000, qui est susceptible de donner lieu au développement d'un produit commercialisé. Autrement dit, c'est relativement peu. Alors, certains soulignent que le recours à des savoirs ethnobotaniques doit pouvoir multiplier les chances d'identification de produits beaucoup plus grandes. Mais toujours est-il que toutes les évaluations qui ont été faites par les économistes concluent que la valeur potentielle pour l'industrie pharmaceutique de la diversité biologique n'est pas une incitation suffisante, finalement, pour qu'on puisse protéger la diversité présente dans les États qui passent ces contrats. Autrement dit, il faut absolument trouver d'autres types de financement et donc on peut avoir recours à d'autres types d'activités. Le cas le plus connu, j'ai cité le Costa Rica, c'est l'écotourisme, comme on dit aujourd'hui, hein, le tourisme écologique, entre guillemets. Vous allez aller visiter des réserves naturelles, par exemple. Donc, soit trouver de nouvelles sources de financement privées, soit trouver de nouvelles sources de financement qui seront des financements publics. Et à l'intérieur de la Convention sur la diversité biologique, il existe, même si les fonds ne sont pas très importants, il existe une institution qu'on appelle le Fonds pour l'environnement mondial, qui est un organisme qui dépend du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des Nations Unies pour le développement. On a un organisme qui existe, qui est doté d'un certain nombre de fonds, qui doit permettre effectivement d'aider à la protection des écosystèmes. Pour l'instant, les résultats de cette politique sont relativement mitigés, mais là aussi, les négociations continuent sur ce point-là. Maintenant, si on se tourne vers la question de l'équité sociale de cette politique, autour de ces contrats, finalement, quand on les étudie, eh bien, on s'aperçoit que finalement, le partage des avantages, hein, ainsi que le stipulait la Convention, le partage des avantages qui sont retirés de ces contrats, eh bien, sont assez limités, finalement. Tout simplement parce que quand on est dans une logique de contrat, eh bien, on est dans un rapport de force, finalement, et eh bien, celui qui l'emporte, c'est celui qui est le plus fort. Ce n'est pas très compliqué. Les entreprises qui sont contractantes, souvent, ont une expertise tant sur la biologie, bien sûr, mais aussi tant sur le droit, qui fait que, souvent, elles sont dans un rapport favorable face à des États fournisseurs d'échantillons, des pays du Sud, qui, eux, n'ont pas toujours cette expertise. Par ailleurs, si vous venez collecter effectivement un échantillon, le lieu où vous allez l'étudier finalement et voir s'il contient des molécules, des gènes qui sont intéressants, c'est un lieu qui est très loin finalement du lieu de collecte. Et là aussi, bien sûr, les possibilités de contrôle, si vous êtes un pays du Sud, savoir qui est-ce qui va se passer dans les laboratoires d'une entreprise multinationale de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, il y a des facultés de contrôle qui sont en fait très faibles ici. Ce rapport est donc assez déséquilibré. On en veut pour preuve que très généralement, les droits d'entrée sur les lieux de collecte ne sont pas acquittés. En fait, on va avoir des contrats qui vont fonctionner uniquement si on arrive à trouver effectivement quelque chose. Donc, il n'y a pas un droit d'entrée directement. En tout cas, c'est assez rare sur la plupart des contrats qu'on connaît. Ensuite, s'il y a une rémunération pour les ressources biologiques qui ont été collectées, il est très très rare que la connaissance des populations locales liées aux ressources, elles, soient rémunérées. Or, je l'ai dit tout à l'heure, souvent la connaissance des populations locales est un élément absolument important pour repérer finalement qu'est-ce qu'il faut chercher. C'est parce que, pour prendre un exemple un peu imaginaire, c'est parce que dans une société, on sait qu'avec tel type de plante, on peut soigner tel type de fièvre, finalement, qu'on peut aller beaucoup plus vite dans la prospection et dans l'identification d'un produit qui un jour donnera peut-être un médicament. Donc, les connaissances que peuvent avoir les populations autochtones et locales, pour reprendre la terminologie de la Convention, sont souvent des éléments primordiaux. Or, je le répète, souvent ces connaissances ne sont pas rémunérées et on s'aperçoit finalement que ces populations locales sont très très dépendantes de la logique des États. Alors, d'une part, se pose la question des législations nationales qui existent. On a vu que la Convention fonctionne essentiellement à partir des législations des États. Et se posent toujours, bien sûr, des problèmes de reconnaissance de population par rapport à une structure politique qui est celle des États. On peut prendre l'exemple de la France, par exemple, sur la question, je sais pas moi, par exemple, de la Guyane, hein, des populations de Guyane. Quelle position ils ont par rapport à la population française. Voilà. Donc on a souvent effectivement des difficultés de reconnaissance, ce qui rend d'autant plus urgent les discussions qui sont menées aujourd'hui pour essayer de définir en fait ces droits de propriété intellectuelle qui pourraient être attribués à cette population. Les discussions sont toujours en cours, elles avancent très très lentement au sein des conférences des parties, et puis depuis quelques années aussi, il faut le noter, on a vu l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle l'OMPI, qui est une, l'organisation des Nations Unies qui s'occupe de la protection industrielle, eh bien, elle aussi a mis en place un groupe de travail qui essaye de développer finalement et d'identifier des droits de propriété intellectuelle. Donc, des questions qui sont toujours en cours, mais je le répète, qui avancent très très lentement, tandis que sur le terrain, eh bien, on a des actions qui, elles, se développent rapidement. Cette focalisation sur les droits de propriété intellectuelle, eh bien, a fait aussi que, finalement, le conflit entre la Convention sur la diversité biologique et d'autres types d'instances est devenu de plus en plus patent. L'instance à laquelle on pense tout particulièrement, eh bien, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Il est vrai que l'attitude de l'Organisation mondiale du commerce, au fil du temps, a changé de manière assez radicale. Si dans les années 70, l'Organisation mondiale du commerce, qui à l'époque encore s'appelait le GATT, avait conclu qu'il fallait maintenir l'environnement en dehors des négociations commerciales, justement, histoire de ne pas tout mélanger, eh bien, la stratégie de l'Organisation mondiale du commerce a changé complètement à partir des années 90, où cette fois-ci, il s'agit de rendre compatibles finalement les règles qui régissent le commerce international et le droit de protection de l'environnement. On a même vu, des travaux lors du sommet de la Terre de Rio qui essayent de faire du commerce international même la solution au développement durable. Et en conséquence de quoi, on a une attention renforcée en fait, de l'Organisation mondiale du commerce depuis les années 90 pour le renforcement des droits de propriété intellectuelle qui sont des instruments, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont censés favoriser le développement du commerce international. Le point important, c'est en 1994, au terme de l'Uruguay Round, eh bien, on a vu l'adoption d'un texte au sein de l'OMC, ce qu'on appelle l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, hein, ce qu'on appelle parfois par l'acronyme ATPIC, ou en anglais les TRIPS, les Trade Related Intellectual Property Rights, donc un accord de l'OMC qui reconnaît les droits de propriété intellectuelle et qui fait obligation aux membres signataires de se doter justement de droits de propriété intellectuelle. Alors ils ont le choix, soit le droit des brevets, soit un système qu'on qualifie de système sui generis, un système propre si vous préférez, soit un mécanisme qui utiliserait les deux. Ce texte, je l'ai dit, a été signé en 1994. La Convention sur la diversité biologique, je le répète, elle a été signée en 1992. Et donc, ce texte, finalement, eh bien, a fragilisé considérablement le dispositif de la Convention sur la diversité biologique. Les juristes qui ont étudié ces deux textes reconnaissent qu'il n'y a pas de contradiction particulière. Il est possible de trouver effectivement une articulation entre la Convention et cet accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce de l'OMC. Mais il n'empêche, le droit des brevets, d'une part par son antériorité, d'autre part, parce qu'on vit une époque aussi où le droit des brevets connaît aujourd'hui une extension de façon très forte, eh bien, le droit des brevets s'en trouve de manière renforcée. Pour l'instant, la confrontation entre conventions d'un côté et accord ATPIC reste un peu en suspens. La réunion de Doha, qui s'est tenue en novembre dernier de l'OMC, a conclu qu'il fallait effectivement, lors du prochain cycle de négociations, étudier de très près cette articulation possible. Mais, encore une fois, les inquiétudes sont grandes de voir finalement l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'emporter comme lieu finalement de négociation sur la diversité biologique. Ce poids et ce glissement vers l'Organisation mondiale du commerce est renforcé qui plus est parce que les négociations sur la diversité biologique ont accouché d'un nouveau texte depuis l'année 2002, un protocole particulier, autrement dit un texte juridique qui forme un protocole qui va venir s'adosser en quelque sorte à la Convention sur la diversité biologique, une sorte de complément si vous préférez. Ce protocole porte sur ce qu'on appelle la biosécurité. La biosécurité, en d'autres termes, c'est un protocole international qui vise à la régulation des organismes génétiquement modifiés, tant qu'à la manipulation de ces organismes à l'intérieur des États, mais aussi quant au mouvement transfrontière des échanges, soit du commerce, mais soit aussi des échanges involontaires, des accidents qui pourraient arriver, d'introduction d'organismes génétiquement modifiés. Donc on appelle ce texte le protocole de Carthagène sur la biosécurité. Donc c'est un texte qui était l'initiative, en quelque sorte, la genèse était inscrite à l'intérieur de la Convention, mais qui a développé finalement sa propre négociation, lesquelles ont commencé dans les années 93, un an après la signature de la Convention, et c'est au bout de 7 ans d'âpres discussions, et bien que ce protocole a été signé, je le répète, en janvier dernier. Pardon. Il devrait entrer en vigueur probablement à la fin de l'année, et la première conférence des parties devrait avoir lieu en 2003. Alors c'est un texte assez novateur, vous imaginez bien, puisqu'il s'occupe d'organismes vivants modifiés. C'est le terme qui a été retenu. On ne parle pas d'organismes génétiquement modifiés, ce sont d'organismes vivants modifiés, et il vient prendre place ici dans un dispositif où, en dehors du droit communautaire, en fait, il n'y avait pas vraiment de texte international contraignant, en tout cas, qui essayait de régir ces utilisations et ces mouvements transfrontaliers d'organismes génétiquement modifiés. Quelques éléments qu'on trouve dans ce texte, rapidement. Il y a aussi une procédure ici d'accord préalable en connaissance de cause. Autrement dit, qu'il doit y avoir un accord qui doit être fait entre le pays importateur d'OGM et le pays exportateur d'OGM. Donc, il faut demander l'autorisation au pays importateur, l'autorisation d'importer en quelque sorte des produits génétiquement modifiés. Là aussi, un certain nombre d'éléments d'information peuvent être requis. Un deuxième point important, c'est que le principe de précaution est reconnu dans 2 articles de ce protocole sur la biosécurité. Autrement dit, il est stipulé que le principe de précaution peut être légitimé en quelque sorte pour reconnaître l'interdiction d'importation, enfin d'exportation plutôt, des organismes génétiquement modifiés. Et dernier point, un étiquetage aussi est prévu. Alors pour l'instant, la notion sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est que les produits seraient étiquetés, peuvent contenir des OVM, des organismes vivants modifiés, et il est stipulé que peut-être d'autres précisions, d'autres identifications pourraient être développées. Voilà. Alors c'est un texte qui, pour l'instant, je le répète, n'est pas encore ratifié. On peut penser que ça va être fait d'ici la fin de l'année. Et c'est un texte de compromis avec quelques imprécisions, quelques ambiguïtés, là aussi. Et on sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de pays ne vont pas signer, bien sûr, ce texte-là. C'est tous les pays exportateurs d'organismes génétiquement modifiés qui voient d'un très mauvais œil, bien sûr, l'instauration d'une réglementation internationale sur le commerce des organismes génétiquement modifiés. Donc, on sait, de toute façon, même si le texte est ratifié d'ici la fin de l'année, qu'il va y avoir des contentieux qui vont intervenir entre les parties signataires, plutôt les pays qui vont être importateurs d'organismes génétiquement modifiés, et puis les pays exportateurs qui, eux, ne vont pas rentrer dans le dispositif. La grande crainte que l'on a, bien sûr, c'est que ces contentieux, ces différends, eh bien, soient tranchés devant une autre instance que la conférence des parties qui s'occupe du protocole sur la biosécurité, et on retrouverait là, bien sûr, probablement l'Organisation mondiale du commerce. Là aussi, débat aujourd'hui à l'intérieur même de l'OMC, vous le savez, sur justement la qualification des organismes génétiquement modifiés. On sait aujourd'hui, les États-Unis font pression d'ailleurs sur certains pays pour que la législation nationale qui serait prise en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés soit relativement faible, et on a déjà des cas de plaintes qui ont été déposées par certains pays devant l'OMC sur des questions justement de commerce concernant les organismes génétiquement modifiés. Voilà. Donc, pour conclure, partie de questions qui intéressent les naturalistes, la question de la diminution de la diversité biologique a peu à peu, finalement, versé dans des questions industrielles, dans des questions commerciales. a abouti à un texte de compromis, hein, qui est la Convention sur la diversité biologique, qui en 2002 est ratifiée aujourd'hui par plus de 180 pays, hein, par les États-Unis, je le répète. Un texte supplémentaire est venu à travers le protocole sur la biosécurité, hein, qui est une véritable avancée qui a été faite. Sur le reste, le bilan qui est fait en termes d'efficacité environnementale, en termes d'équité sociale, est aujourd'hui relativement mitigé. Qui plus est, j'ai fini par cela tout à l'heure, il y a des grandes questions qui demeurent aujourd'hui, finalement, sur les négociations qui vont continuer à se tenir à l'intérieur de la conférence des parties, mais aussi la grande inquiétude présente, c'est de voir finalement le lieu de négociation se déplacer vers des instances autres et, je le répète, l'Organisation mondiale du commerce est bien sûr un de ces lieux les plus en vue, d'une part parce que les questions de commerce international, on sait, elles occupent une place éminemment importante, d'autre part parce que, vous le savez, l'Organisation mondiale du commerce est un des lieux qui a un organisme chargé justement de régler des différends. Voilà. Je vous remercie.
D'après ce que vous venez de dire, le droit à la propriété des surfaces de terrain va devenir important. Enfin, ça va poser d'autres problèmes. L'accession à la propriété, par exemple, un particulier pourra-t-il, s'il achète une grande surface de terrain, je parle en France par exemple, que va-t-il faire dessus? Il y aura à se poser des questions parce que. Bon, alors il y a ça. Et puis, la façon dont vous terminez, il y a à se poser la question de la souveraineté des États. C'est un sujet, alors là, politique très important, parce qu'avec l'OMC, eh bien, n'importe. Enfin, ça va vers une diminution du pouvoir des États. C'est-à-dire, par exemple, en France, par exemple, un étranger pourrait acheter un territoire sur le territoire français, puisque maintenant, n'importe quel étranger, européen ou ailleurs, je pense, peut acheter des terres françaises. Puis, donc, est-ce que, avec, s'il achète une surface de terrain, tout ce qui est sur ce terrain lui appartient. Donc, je vois pas le rapport de souveraineté. Enfin, c'est assez confus, vous voyez. Souveraineté de l'État, parce que si c'est un étranger qui est propriétaire d'une terre française, enfin, je prends un cas d'une terre française, il possède tout ce qu'il y a dessus. Mais lui-même n'est pas français, donc est-ce qu'il doit le donner ça enclenche, ça laisse entrevoir, suivant les politiques qui seront adoptées, de souveraineté ou pas de souveraineté, de réglementation particulière. Enfin, c'est,
oui,
il y a beaucoup de travail à faire.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une question dans ce que vous dites, mais il est évident que la Convention sur la diversité biologique et toutes les négociations qui l'entourent, eh bien, fait qu'aujourd'hui, finalement, il y a une redistribution, il y a la création d'une part, la redistribution d'autre part, d'un ensemble de droits, effectivement, sur l'ensemble des ressources biologiques. Redistribution, je l'ai dit, pour des États d'un côté, pour des intérêts privés de l'autre, pour aussi peut-être de nouveaux types de détenteurs de droits qui pourront être des populations locales, alors peut-être des peuples, peut-être des villages, peut-être certains types de professions. Enfin, on peut imaginer un tas d'effectivement. Pour l'instant, c'est, comme je l'ai indiqué, on en est encore dans les prémices, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, de repérer, de faire des inventaires, etc., vous voyez.
La question que je me pose est la suivante. Une espèce, l'espèce humaine, s'est attribué le droit de propriété sur l'ensemble de la planète et le droit d'y faire ce qu'elle veut. Quand on sait que le principal moteur des opérations commerciales, sinon le seul, est l'intérêt et essentiellement à court terme, comment peut-on assurer la moindre compatibilité que ce soit entre le problème de l'évolution à long terme de notre planète et cette action qui risque de démolir tout simplement la vie sur la planète. Voilà la question que je pose. Comment peut-on concilier les deux choses ?
La question reste posée. C'est effectivement la question qu'on peut garder à l'esprit aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que la lecture qu'on fait aujourd'hui de la diversité biologique, c'est d'abord sur un des éléments, les gènes en tant que tels. Et vous l'avez bien compris, finalement, on essaye de traduire la diversité biologique sous forme de marchandises, d'une certaine façon, quoi, de produits ou d'activités, en tout cas, qui vont pouvoir être rentables. Donc c'est vrai qu'on a une espèce de glissement de plus en plus vers une sorte de marchandisation, finalement, des dispositifs qui pourraient protéger la diversité biologique. Et donc, il n'est pas très étonnant, finalement, qu'on arrive à un moment à buter contre avec l'OMC, quoi. Donc vous avez parfaitement raison, je n'ai pas de réponse à vous apporter aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur une question de court terme, de rentabilité. Je ne suis pas très optimiste pour l'instant sur les réponses qui sont apportées. Oui.
Oui, je pense qu'il faut quand même faire très attention. On est en train de considérer qu'il peut y avoir un droit de propriété d'une espèce, l'espèce humaine, sur l'ensemble des autres espèces qui peuplent notre planète. Est-ce que c'est quelque chose qui est moralement acceptable ? Et est-ce que c'est quelque chose que l'on peut laisser à la gestion du commerce, c'est-à-dire à l'intérêt à court terme ? Alors que la planète, c'est quand même une évolution sur des milliards d'années. Alors la question que je pose, est-ce qu'on a moralement le droit de faire ça ?
Je laisse chacun répondre à la question en oubliant qu'il n'y a pas qu'une question morale aussi. C'est-à-dire que il y a la question aussi de l'efficacité, finalement, qui se pose.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de comparable avec le problème de la diversité culturelle, où un combat est engagé pour dépasser la notion de diversité culturelle, donc en l'occurrence diversité biologique, pour aller vers exception culturelle, comme il y a vers exception biologique, comme il y a un combat vers l'exception culturelle. Ça rejoint un peu les interrogations de madame de tout à l'heure. L'exception culturelle et donc l'exception biologique signifierait le droit souverain de chaque État, une sorte de droit de veto interne, personnel, de ne pas se voir appliquer des règles qui signifient sa mort ou sa disparition progressive. Donc, le combat qui est mené dans le domaine de la culture pour refuser de reconnaître à l'OMC tout droit de fixer des règles au nom de la diversité culturelle, en raison même de l'exception culturelle qui est un droit souverain de chaque État, de chaque peuple, de chaque groupe, de collectivité. Est-ce que là n'est pas un problème de fond qui dépasse d'ailleurs l'accord sur la propriété intellectuelle ? Parce que vous nous avez vous-même dit que cet accord finalement dévie vers la massification du brevet qui est strictement un accord, un droit commercial dans les faits. Hein. Voilà ma question. Est-ce que l'affrontement pour préserver la diversité biologique n'est pas de combattre et de mettre en avant l'exception biologique comme n'étant pas, j'ai oublié de le dire, une marchandise comme une autre. Le combat dans le domaine de la culture est de dire la culture n'est pas, les biens culturels ne sont pas une marchandise comme les autres. Et donc la biologie n'étant pas une marchandise, tout ce qui relève de la biologie doit être considéré comme une exception.
Bon, ce qu'il faut noter, c'est qu'il est évident qu'il y a des liaisons très fortes entre, d'un côté, la diversité biologique et, d'autre côté, la diversité culturelle. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des sociétés, depuis des milliers d'années, qui ont sélectionné tel type d'espèces, animales et végétales, qu'il y a une diversité qui existe aussi aujourd'hui. Et on sait bien que d'un pays à un autre, par exemple, une plante va être considérée comme une plante sauvage, tandis qu'à côté, elle va être considérée comme au contraire une plante cultivée, etc. Donc c'est vrai, quand on y regarde d'un peu près, assez rapidement, les questions de diversité biologique ouvrent directement finalement sur les diversités culturelles. Et il faut insister aussi sur le fait que parmi les questions qui se posent, les questions alimentaires occupent une place très très importante en plus. Donc c'est vrai qu'on est concerné directement par les cultures, etc. Donc s'il y a une liaison à faire, elle est effectivement celle-là, entre diversité biologique d'un côté et diversité culturelle. Alors après, est-ce qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui ressemblerait à l'exception culturelle, par analogie, quelque chose qui serait une espèce d'exception biologique peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment le dossier tel qu'il a été défendu enfin, dans les négociations sur le cinéma et des choses comme ça. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des enseignements à les regarder, peut-être. Toujours est-il, je voudrais souligner quand même qu'on est face à un droit des États quand même. Et je m'interroge quand même sur justement la diversité des représentations sociales et des pratiques qui existent par le monde entre toutes les cultures et le vivant. Et je suis un peu, je frémis un peu parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ? On est en train de se dire finalement la régulation entre les sociétés humaines et la diversité du vivant doit passer par une forme de droit de propriété intellectuelle aujourd'hui. Alors, au pire, c'est le brevet. Peut-être on peut inventer de nouveaux types de droits de propriété intellectuelle, mais on est en train d'obliger en fait l'ensemble des sociétés humaines à passer finalement par ce crible des droits de propriété intellectuelle. Or, si on écoute ce que nous disait hier M. Descola, on voit bien que les rapports, les représentations sociales, les pratiques qu'il y a entre les sociétés humaines et le vivant sont d'une diversité absolument extraordinaire. Or là, on oblige finalement l'ensemble de ces sociétés à jouer, finalement, à choisir une institution particulière, cette institution étant le droit de propriété intellectuelle. Donc on oblige toutes les sociétés humaines, finalement, à régir leur rapport au vivant via une seule institution, alors peut-être assez large, encore une fois, ce n'est pas la même chose un brevet, une marque ou quelque chose d'autre, mais quand même, on est en train de restreindre, finalement, et d'obliger à une solution particulière. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose, quand même, qui est véritablement du domaine de l'anthropocentrisme, en tout cas d'occidentalocentrisme, en tout cas, c'est clair. Donc, vous voyez, parce que si on reste au niveau des États, les États vont jouer à ça, c'est sûr. Ils ont intérêt à jouer à ça. La question, c'est l'ensemble des sociétés qui existent à l'intérieur de chacun des États, par exemple. Comment les sociétés civiles, on parle comme ça de temps en temps, hein, quelle voix elles ont, finalement, dans les façons de gérer les façons de réguler leur rapport au vivant. C'est un peu cette question-là qui va se poser, finalement. Et pour l'instant, on est un peu dans les spectatives.
Oui, j'aurais voulu intervenir sur le fond, mais avant, je voudrais faire deux toutes petites remarques. D'une part, je crois que vous avez parlé d'espèces alors qu'il n'était pas question d'espèces, mais de variétés, c'est quand même très différent. Bien que le terme d'espèce, comme vous le disiez, a beaucoup de mal à être défini, mais bon, quand on parle de pommes, par exemple, il s'agit de variétés. Ça, c'est un petit détail. Vous avez dit aussi, mais je crois que ce n'était pas le reflet de votre opinion personnelle, mais de quelque chose qui est dit de façon très générale, que le génie génétique augmenterait la biodiversité. Or, c'est faux, à mon avis. Il va restreindre la biodiversité, car on n'empêchera pas par le génie génétique, la disparition des espèces qui s'accélère terriblement, on va simplement figer quelques modifications d'espèces existantes et ces modifications vont au contraire centrer sur ces nouvelles variétés modifiées par génie génétique et peu à peu éliminer toute la diversité des cultures traditionnelles. Enfin, je parle de culture du point de vue paysan. Mais je voulais aussi intervenir sur autre chose. Je pense que il y aurait énormément de choses à dire, en particulier ce que disait ce monsieur tout à l'heure, des milliards d'années pour arriver à une biodiversité qu'on est en train de détruire en quelques dizaines d'années. Hein. On va à la catastrophe, c'est certain. Et je pense que l'OMC joue un rôle épouvantable dans cette histoire et il faut savoir qu'il est juge et partie puisque l'organisme de règlement des différends dont vous parliez tout à l'heure est une émanation de l'OMC. Donc, dans tous les problèmes qui vont se poser à ce niveau, il sera juge et partie, ce qui est quelque chose d'absolument inadmissible. Bon, pour terminer, je voudrais donner un exemple très précis parce que je crois qu'on comprend mieux les problèmes avec des exemples sur la nocivité des brevets. Dans le domaine médical, une firme américaine, Myriad Genetics, on en a beaucoup parlé depuis un an, s'approprie, aux États-Unis c'est déjà fait, mais elle a déposé des demandes de brevets en Europe, donc sur les gènes qui seraient responsables de certaines formes de cancer. Et si elle obtient, si cette firme obtient ces brevets, et il est très possible qu'elle les obtienne, malgré l'opposition très forte de l'Institut Curie, de l'Institut de recherche sur le cancer de Villejuif, de l'Institut de recherche sur le cancer de Londres, etc., si elle obtient ces brevets, cette firme aura non seulement la possibilité d'effectuer tous les tests, c'est-à-dire de s'accaparer un marché énorme, mais aussi de s'accaparer toutes les recherches ultérieures. Alors que ce qui est découvert, ces gènes ont été découverts grâce à, en grande partie, à la recherche publique. Donc on arrive à une mainmise d'un certain nombre de firmes privées sur des domaines qui relèvent de la santé, de la survie des espèces, etc. On est dans une problématique très, très, très grave et très dangereuse. Bon, je pense que cet exemple de Myriad Genetics et des brevets sur les gènes du cancer est un exemple très concret, qui est un peu marginal parce que c'est médical, mais c'est encore c'est le vivant qui est en cause.
Oui. Sur la question des variétés, bien évidemment, vous avez raison. Alors, la question des organismes génétiquement modifiés, c'est un des aspects de la controverse. J'ai dit qu'on est dans un univers controversé. C'est un des aspects de la controverse, savoir effectivement est-ce qu'on accroît ou est-ce qu'on diminue la diversité biologique aujourd'hui. C'est toute la question de l'impact des organismes génétiquement modifiés. Je ne m'y lancerai pas. Et le dernier point, je pense que ce que vous soulignez, effectivement, c'est que depuis les années 80, on a vu l'extension, finalement, du domaine de recouvrement des brevets. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aujourd'hui à ce que les brevets soient de plus en plus larges, finalement, et ce qui, effectivement, pose un problème, parce que ça veut dire que le monopole s'agrandit de plus en plus. Il y a pression en ce moment pour essayer, justement, d'essayer de réduire la portée des brevets pour que ça soit véritablement sur certains éléments et non pas sur un ensemble de processus comme ce que vous avez précisé.
Ma question rejoint un peu les deux précédentes. Je voudrais avoir votre éclairage sur le point suivant. Tant qu'il s'agit de profiter, de tirer profit de la biodiversité, il me semble que le problème n'est pas différent de celui du partage des richesses minières, par exemple. Qu'en est-il de la disparition des écosystèmes et des espèces? Est-ce qu'il y a, dans ces conventions-là, des dispositions qui permettent de corriger ou alors d'éviter la disparition d'espèces ou d'écosystèmes?
Oui, il existe des dispositions. Même y compris d'ailleurs quand on parle de ressources génétiques, c'est-à-dire rien n'interdit, en tout cas dans l'idéal, rien n'interdit un pays, mais prenons le Costa Rica par exemple, d'exiger un droit d'entrée pour les entreprises qui viennent collecter des ressources génétiques, et avec ce droit d'entrée, de mettre en œuvre une politique de défense des écosystèmes par exemple. Vous voyez, là, on est renvoyé aussi à la politique des États qui peuvent développer, si se reconnaît la Convention, les États peuvent développer la politique qu'ils entendent mettre en œuvre pour la diversité biologique. C'est souvent la stratégie qu'essayent de mettre en œuvre les gens qui protègent la nature, effectivement. C'est que derrière une espèce emblématique, par exemple, derrière une ressource, on va essayer On parle parfois de ressources ou d'espèces parapluies. On va essayer, grâce à ça, de protéger un espace beaucoup plus large qui correspond à d'autres éléments. J'ai évoqué aussi, très rapidement, il est vrai, cette politique qui peut être menée par le Fonds de l'environnement mondial. C'est-à-dire que pour d'autres types d'activités, je pense plutôt à l'écotourisme en particulier, il y a des fonds qui sont proposés pour aider, en quelque sorte, à une mise en valeur d'espaces beaucoup plus larges, finalement, que simplement des ressources génétiques. Bon, ça mériterait après aussi examen, savoir un bilan de ces initiatives, de ces politiques qui sont mises en œuvre. Ce n'est pas parce que vous allez faire des photos sur les rhinocéros que, pour autant, la faune est obligatoirement préservée. Enfin, je pense qu'il faut se méfier des espèces d'évidences comme ça. Il faudrait étudier aussi un peu qu'est-ce qui se passe derrière ces politiques-là, quoi. Mais, en tout cas, la Convention peut donner place à ce genre d'initiative. Il n'y a pas de problème particulier.
Merci, Monsieur Vivien.